France Inter.
Aujourd'hui, une histoire énergétique de l'architecture racontée par
Raphaël Ménard, ingénieur et architecte.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Pendant l'essentiel de leur histoire, les sociétés humaines ont bâti avec très peu d'énergie. L'architecture était une réponse directe au climat, orientation au soleil, murs épais, ventilation naturelle. Le confort ne venait pas de machines, mais de la forme même des bâtiments. L'énergie était rare et locale, elle imposait donc la sobriété. L'ère industrielle bouleverse cet équilibre, le charbon, puis le pétrole et le gaz donnent l'illusion d'une énergie abondante et bon marché. Le béton, l'acier et le verre permettent de construire vite et haut, sur tous les continents. Alors on corrige désormais l'architecture par la technique, chauffage, climatisation, éclairage permanent. Le bâtiment devient l'un des secteurs les plus énergivores et l'un des plus gros émetteurs de CO2 à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, face au réchauffement climatique, ce modèle atteint ses limites. Les émissions baissent timidement, trop lentement, et une réalité s'impose. Construire du neuf coûte écologiquement beaucoup plus cher que transformer l'existant. Rénover, réemployer, adapter deviennent donc des leviers énergétiques majeurs. L'architecture redécouvre des principes anciens devenus urgents avec des dispositifs passifs, des matériaux biosourcés, de la lumière naturelle ou encore de la ventilation. Il ne s'agit plus seulement de confort mais de résilience collective à l'heure des canicules et des villes surchauffées. L'histoire énergétique des sociétés humaines s'écrit donc aussi dans les bâtiments. Et aujourd'hui, nos murs posent une question centrale: comment continuer à habiter la ville sans alimenter la crise climatique qui la rend de plus en plus inévitable et invivable? C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Raphaël Ménard.
Bonjour.
Vous êtes donc architecte et vous avez publié l'année dernière aux éditions Wild Project un livre intitulé « Vers la légèreté, petite histoire énergétique des sociétés humaines ». Cette histoire de l'architecture est indissociable de celle de l'énergie, on va le voir. On va voir qu'aujourd'hui, le modèle a atteint largement ses limites. J'aimerais d'abord savoir à partir de quand dans votre parcours professionnel est née une réflexion vers d'autres formes d'architecture plus sobres en énergie.
Ah, ça a commencé il y a une vingtaine, trentaine d'années. En fait, je suis ingénieur et architecte et que les questions énergétiques m'ont toujours beaucoup intéressé. Et donc ce livre, c'est un livre aussi d'un parcours personnel, d'avoir cherché déjà un allègement au sens littéral des constructions pour qu'elles pèsent moins lourd, et puis aussi un allègement aussi figuré pour savoir comment on fait pour sortir de cette parenthèse un peu particulière qu'on appelle l'ère thermo-industrielle, qu'on appelle l'anthropocène et qui dure juste depuis 200-300 ans, et comment on fait cette bascule, quoi.
Ouais, la parenthèse est pas refermée encore.
Bah non, puis en plus 2026 commence plutôt assez lourd là. On sent quand même qu'il y a des petites pressions de prédation sur les ressources, qu'elles soient dirigées vers le pétrole ou aussi vers des matériaux critiques ou des terres rares. Et donc là, vous aurez compris que je flèche deux éléments d'actualité.
Ouais. Le secteur du bâtiment qui est l'un des plus émetteurs en gaz à effet de serre, hein, qu'est-ce qui est le plus énergivore en fait dans ce secteur-là?
Vous savez, le bâtiment, je voudrais peut-être un tout petit peu pondérer son rôle et sa responsabilité, parce que, ne serait-ce qu'en France, il est plutôt pas mal sur sa trajectoire d'atténuation et de décarbonation. C'est vrai que le bouquin, ici, il montre aussi la question, la relation, en fait, entre la disponibilité en énergie et en matériaux, sur la façon aussi d'organiser les villes et les territoires, l'aménagement du territoire, et parler aussi des transports. Et là-dessus, la mobilité a encore pas mal de pain sur la planche.
Ouais, sauf qu'attendez, on ne peut pas faire comme si le bâtiment pesait pas lourd dans les émissions de gaz à effet de serre, quand même.
Évidemment.
Vous balayez ça d'un revers un peu rapide, quand même. C'est quasiment 25%, quand même.
C'est à peu près 25%. Ça décroît. Il y a aussi, vous avez une réglementation aussi qui est qui est incitative. Vous avez aussi une communauté d'architectes, d'ingénieurs qui se mobilisent. Et puis, petit à petit, on le sent, y compris dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'ingénierie, qu'en fait, qu'il faut qu'on ait affaire avec le déjà-là. Et que la question, vous le rappeliez, Mathieu, dans votre édito, que voilà, l'air, elle est plutôt à la réparation, à la transformation, oui, plutôt qu'à la tabula rasa.
Voilà, mais sur un bilan quand même de un quart des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Exactement. Il faut quand même le rappeler dès le départ pour avoir une bonne idée de ce que ça représente et de l'enjeu aussi qui entoure précisément toute cette réalité-là. Pendant des millénaires, donc, les sociétés humaines ont bâti avec des énergies de très faible densité, parce que c'est une histoire que vous racontez, donc on va essayer de la dérouler un petit peu ensemble avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire véritablement aujourd'hui avec différents critères et facteurs, les muscles, le feu, le vent, l'eau, tout ça. Ce sont des contraintes énergétiques qui ont façonné les premières façons de faire de l'architecture, finalement, non ?
C'est vrai que l'architecture, là, moi, ce qui m'intéresse en tant que concepteur, c'est finalement cette relation entre la forme, les usages, et puis les conditions aux limites de l'exercice, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient énergétiques. Et que ce que je voulais raconter dans la première moitié de cet ouvrage, qui est plutôt celle de ce que j'appelle l'architecture renouvelable, qui globalement fonctionnait avec le soleil, la photosynthèse, l'eau et le vent, c'est qu'elle produisait des formes. Et que depuis 200-300 ans, on a une bascule. Ça fait penser aussi à des vœux présidentiels, des vœux du président de la République il y a quelques années. C'est je décide, il exécute. Donc l'architecte décide et puis l'énergie suivra bien. Mmh. Alors que il y a des siècles et des millénaires, c'était l'inverse. Ouais.
Ouais. Alors vous citez plusieurs exemples pour revenir vraiment dans l'histoire énergétique de l'architecture, avec des habitats comme le tipi ou l'igloo qui sont, vous le rappelez, de véritables machines thermiques passive. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces formes nous apprennent exactement ?
Je pense à un regard différent sur la frugalité et sur une efficacité de la forme. Si vous prenez le tipi, alors le tipi, pour les auditeurs, je vais essayer de le décrire, c'est un cône, voilà, qui est traditionnellement tenu par des branchages, des rondins, et puis autour des textiles ou des pots de bêtes, et qui est une forme en fait diaboliquement efficace, diaboliquement à la fois d'un point de vue structurel, parce que vous avez là une sorte de triangle de révolution qui est autostable, une forme aussi qui est relativement compacte. Alors même si l'igloo est peut-être plus compact au corps, mais ça veut dire que en fait, il a assez peu de déperdition avec le climat extérieur. Et puis, c'est une forme haute qui favorise aussi la conviction du feu. Mm-hmm. Et qui, évidemment, depuis la nuit des temps, depuis que même pas l'Homo sapiens, même ses aïeux avaient commencé à maîtriser le feu de biomasse, eh bien, on s'est réunis autour du feu et on s'est parfois réunis autour du feu dans une petite architecture qui s'appelait le tipi. Ouais.
Très efficace, parce qu'on voit qu'avec très peu de matière et d'énergie, finalement, on obtient quelque chose qui produit quand même un certain confort.
Alors, qui produit un confort, il faut aussi se dire que le tipi, en termes d'intensité d'usage, c'était probablement des densités au mètre carré bien plus élevées que le bâtiment contemporain. Et donc, c'est vrai que c'est aussi la chose que je pointe aussi dans le livre, et dans cette forme de bascule et de redescente à la fois énergétique et matérielle, c'est aussi de questionner nos usages, et notamment les questions de densité.
Ouais. Raphaël Ménard, la maîtrise du feu, ça a été une rupture majeure aussi dans cette histoire énergétique humaine ?
À plein de titres. Si je veux donner, je ne suis pas des préhistoriens, mais je crois que c'était il y a entre moins 200 000 et moins 400 000 que peut-être l'Homo erectus apprend à faire le feu. C'est plutôt des foyers ouverts. Et puis petit à petit, il y a des abris qui se constituent autour. Et puis de façon finalement relativement récente, la cheminée telle qu'on la connaît, qui apparaît au Moyen-Âge, et qui conditionne aussi une autre forme de bâti et une autre façon aussi de faire la ville.
Ouais. Alors avant les machines, l'énergie mécanique est essentiellement humaine ou animale, hein, et ça aussi c'est une réalité énergétique sur les grandes architectures du passé.
Oui, alors même si dans le passé, on n'était pas à l'abri aussi par moments de l'hubris, de l'architecte ou du souverain, qui est, on pense évidemment à la pyramide de Khéops. Alors, par moments, on peut s'interroger, dire, mais tiens, mais la pyramide de Khéops, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a réussi à amonceler à peu près, je crois, c'est 5 millions de tonnes de pierres.
Ouais.
Sans moteur, quoi. Donc, juste avec l'énergie des hommes, l'énergie des bêtes. Alors, pour illustrer ce que ça représente énergétiquement de faire monter des pierres dans un édifice qui fait, je crois que ça fait 146 mètres de haut, la pyramide de Khéops, qui est la plus haute sur le site de Gizeh, ouais. Bien, ce serait l'équivalent en termes d'énergie, c'est 1000 personnes qui vont travailler à plein temps pendant 1000 jours, et ça, c'est sans prendre en compte les frottements, sans prendre en compte aussi le fait de casser les cailloux, etc., etc.
Donc ça, c'est une accumulation finalement colossale d'énergie humaine et animale.
Bien
hein.
sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est aussi la chose, moi, qui par moments me fascine, et on pense même à des chefs-d'œuvre plus contemporains et qui ponctuent nos villes et nos capitales en France, en Europe et dans le monde, c'est qu'on a des trésors qui, le château de Versailles n'a été construit qu'avec l'énergie humaine et l'énergie animale. C'est assez fascinant quand on y réfléchit.
Raphaël Ménard, l'attraction animale, justement, là ça marque un tournant quand même important, ça amplifie les capacités énergétiques des sociétés au fil du temps.
Bah, principalement dans ce qui était, on va dire, le carburant de l'humanité pendant des millénaires, c'est la photosynthèse, c'est l'exploitation des champs, c'est aussi la récolte du petit bois dans la forêt pour apporter du combustible de la cheminée dans la chaumière. Et que les produits agricoles, finalement, ont aussi produit des progrès dans le rendement énergétique de production des champs.
À quel moment le vent et l'eau entrent en jeu, précisément, dans cette histoire humaine de l'architecture et des énergies?
Alors, ça se balade. Alors, je crois que pour les moulins à eau, c'était quelques millénaires avant notre ère. Pour les moulins à vent, c'est un petit peu plus disparate, parce que je crois qu'il y a des premiers moulins à axe vertical qui apparaissent en Perse au tournant du 8e siècle. Mais il y a eu un très grand essor des moulins à vent en Europe du Moyen-Âge, jusque il n'y a encore pas très longtemps.
Oui,
il y a des choses qu'on a aussi totalement oubliées. Et alors, c'est vrai que si je devais aussi donner un peu quelles sont les dichotomies centrales de Vers la légèreté, c'est aussi le rapport entre le visible et l'invisible. C'est qu'on est aussi aujourd'hui dans un monde où l'énergie, on ne la voit plus, on ne sait plus où on l'extrait, on ne sait plus où on la transforme, alors que l'énergie a tout le temps été là dans les paysages. Et donc, pour donner un exemple, jusqu'au milieu du 19e siècle, il y avait à peu près autant de moulins à vent en France qu'il y a d'éoliennes aujourd'hui.
Donc ça, c'est un vrai système énergétique en soi, en fait. Hein. C'est
oui, ça participait au système énergétique, même si là-dessus, le système énergétique central, c'était quand même la photosynthèse, à savoir récupérer les céréales et les récoltes des champs et évidemment l'exploitation des forêts. Et aussi, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que toute cette époque-là, alors je ne vais pas en faire non plus un âge d'or, hein, parce qu'il a eu ses servitudes, il a eu ses raretés, il a eu ses guerres aussi, etc. Mais la tension, il y a eu des tensions très très régulières sur le bois. Pour donner quelques exemples, je crois qu'à Londres, au XIVe siècle, par habitant, il fallait à peu près 1500 kilos de bois.
Ouais.
Et alors, la question aussi assez centrale de cette période-là, et qui sera aussi la même lorsqu'on se projette, nous aussi demain, en dehors des énergies fossiles, c'est la question spatiale. C'est que pour assurer les besoins en bois de Londres au XIVe siècle, il fallait l'équivalent de plusieurs centaines de fois sa surface de forêt pour assurer son approvisionnement énergétique. C'était la même chose à Paris. Hein.
Avec déjà des épisodes très précoces, en tout cas dans l'histoire de déforestation. On va aller au XVIIIe siècle, où là tout bascule, hein, avec le charbon, le pétrole et le gaz, une vraie rupture énergétique, en tout cas, qui va évidemment profondément modifier l'architecture et notre rapport même à la matière. On va discuter avec vous avant de voir ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui. Et puis nous attendons, amis auditeurs et auditrices, vos messages pour notre invité Raphaël Ménard. Vous nous rejoignez sur la page de la Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Mon habitation serait entourée d'un joli parterre, encerclée d'une pelouse bien vert tendre. Au centre pousseraient de jolies fleurs. Comme je voudrais que ce rêve soit réalisé un jour.
Voilà une archive de 1964 de l'ORTF. Raphaël Ménard, vous qui êtes architecte et qui publiez aux éditions Wild Project Vers la légèreté, petite histoire énergétique des sociétés humaines. Alors justement, nous arrivons au XVIIIe siècle avec le charbon, le pétrole, le gaz, et là on assiste vraiment à une rupture énergétique majeure. C'est une bascule sans précédent dans l'histoire humaine.
Je crois que oui. je suis pas historien non plus, moi. Mais à cette échelle-là de la population humaine, où en 1800, il y a 1 milliard d'individus. Alors, c'est pas ce 1 milliard d'individus qui bascule dans l'ère techno-industrielle, mais c'est plutôt l'Europe de l'Ouest. Elle y va d'ailleurs assez progressivement. Il faut aussi se rappeler, il y a voilà, d'autres historiens et d'autres chercheurs aussi ont enquêté sur ce tournant de l'art techno-industriel. Je pense d'ailleurs à un article très intéressant fait par Sabine Barl, qui a eu le Grand Prix de l'urbanisme récemment, qui a documenté l'histoire énergétique de Paris au cours des 2-3 derniers siècles et qui a montré que c'est, je crois, à peu près en 1860 que Paris passe du charbon, du bois au charbon, qu'on est à 50-50 entre bois et charbon, et puis pour ensuite aller plus vers charbon, puis ensuite plus vers le gaz, et puis ensuite plus vers l'électricité, le pétrole, etc. Donc cette bascule, elle ne survient pas du jour au lendemain, et on ne passe pas directement de la chaumière ou du bâtiment en pierre massive directement au gratte-ciel de béton, d'acier et de verre. Mais c'est vrai qu'à l'échelle des temps géologiques, ça survient presque en une seconde.
Ouais, l'invention de la machine à vapeur, est-ce qu'on peut la considérer finalement comme un point de départ de l'anthropocène aussi ?
Alors, il y a plusieurs, je crois que les historiens se crêpent un peu le chignon pour savoir c'est quoi la vraie date de l'anthropocène.
Il y a beaucoup de propositions très variées.
Il y a beaucoup de propositions
très variées. Du néolithique jusqu'à la bombe atomique.
Exactement. Et donc, je crois que c'est Paul Crutzen qui, en fait, pour lui, oui, c'est le brevet de la machine à vapeur qui date de 1682 par Newcomen et James Watt, qui est le point de départ et le point de bascule. Et c'est vrai que c'est aussi ce moment fort aussi important de la thermodynamique où grâce au feu, et en particulier au feu des énergies fossiles, que ce soit le charbon, le gaz, et puis surtout aujourd'hui le pétrole, qui est la première énergie fossile consommée, on arrive à produire de l'énergie mécanique en substitution de l'énergie musculaire, qu'elle soit humaine et animale, mais à des niveaux de puissance qui sont littéralement totalement hors d'échelle. Hors d'échelle, et donc qui se voit littéralement dans la façon de fabriquer l'architecture avec des tours, des ouvrages absolument héroïques qui étaient inconcevables quelques siècles auparavant, ou aussi, je citais tout à l'heure, aussi du défi, par exemple, sur les mobilités, se déplacer à 800 à 900 km/h dans un avion, ça ne marche qu'avec des énergies très très concentrées, des énergies fossiles. Et par ailleurs, et ça, encore une fois, d'un point de vue, je dirais presque esthétique, c'est aussi cette bascule entre le visible et l'invisible, en passant, en fait, d'un régime énergétique où auparavant, l'approvisionnement énergétique était très local et c'était une sorte de bassin versant d'énergie qui venait des forêts et des champs qui étaient limitrophes, à une géographie qui petit à petit se mondialise et qui fait au fur et à mesure, très bien, il y avait des mines de charbon en France et puis ensuite il y a eu ça et là quelques dérives de pétrole, mais aujourd'hui surtout l'essentiel de notre consommation énergétique, elle se fabrique, plutôt sa production se fabrique littéralement hors les murs.
Ouais. Alors justement, restons un peu sur cette ère industrielle et toutes les transformations liées donc principalement au charbon, ces nouveaux matériaux, donc à l'époque, ça transforme vraiment concrètement l'architecture aussi.
Oui, parce que ça va de pair aussi avec la production aussi de nouvelles matières. L'acier, c'est un fer un petit peu transformé, mais qu'on a réussi à faire aussi parce qu'il y avait le charbon. Et donc, il y a cette sorte de binôme d'enfer. Vous voyez, c'est aussi cette histoire que j'essaie d'un peu de raconter dans le livre, qui est cette dualité énergie-matière. C'était un petit peu comme si c'était un bicylindre qui se renvoie un peu tout le temps la balle. Et donc là, il y a toute cette phase littéralement de montée, où en l'espace de en 150 ans, l'humanité voit sa population multipliée par 5 et sa consommation d'énergie moyenne à peu près de la même valeur.
Après le charbon, c'est le pétrole, évidemment, qui va marquer aussi une nouvelle étape dans cette trajectoire. Là aussi, avec une densité énergétique exceptionnelle.
Oui, qui est même supérieure à celle du charbon. Et puis, le grand mérite, ou plutôt la grande vertu du pétrole, c'est aussi sa fluidité et sa capacité à être beaucoup plus facilement transporté. Et aussi, le grand point d'intérêt du pétrole, c'est le moteur à combustion interne. Mmh. Et c'est la révolution automobile qui va... Là, littéralement changer la physionomie des territoires et la façon d'aménager les villes.
Donc ça va jouer un rôle aussi dans cette architecture fossile, hein, on peut l'appeler comme ça ?
Tout à fait, c'est le titre de l'un des chapitres. Ouais.
Ouais. Vous soulignez le gaspillage énergétique massif aussi des moteurs thermiques, là aussi c'est un point clé à ce moment-là ?
Bah, ça le reste, hein. Les moteurs thermiques, convertir à partir du feu de l'énergie mécanique, la thermodynamique nous apprend qu'il y a un rendement. Alors, et le rendement typique de toutes ces machines, que ça puisse être le moteur du Clio jusqu'à l'alternateur dans une centrale thermonucléaire, ça se balade de 25% à une cinquantaine de pourcents. Mais pour vous rassurer, ou plutôt vous décevoir, Mathieu, c'est que dans une voiture, le rendement il est plutôt très faible. Et donc, il y a une grande partie de la chaleur qui part, une grande partie de l'énergie, pardon, qui part en chaleur vers les petits oiseaux. Ouais.
Raphaël Ménard, le gratte-ciel. Est-ce que c'est l'icône ultime de l'architecture fossile, justement ?
Oh, les icônes, il y en a peut-être plusieurs. On pourrait aussi citer dans l'architecture fossile l'étalement pavillonnaire. Mmh. Et c'est aussi, au contraire, un rhizome très horizontal qui s'appelle le tissu des routes, des parkings, qui, rien qu'en France, occupe près de 4% de territoire. 4% des territoires, c'est pas rien, surtout lorsqu'on compare à la surface de l'architecture. Et si on compare ces 4% à la surface des toits en France, bah vous avez 4 fois moins de toits que vous avez de routes. Donc, pour répondre à votre question, oui, le gratte-ciel a été aussi rendu possible avec des matières nouvelles, avec le béton, avec l'acier, avec aussi l'invention d'un transport particulier qui s'appelle l'ascenseur, et de l'avoir rendu sûr grâce au taquet anti-recul inventé par Monsieur Otis.
On va écouter cette archive de 1984 pour nous parler des premiers gratte-ciel français. Ça se passe en 1927 à Villeurbanne, dans la région lyonnaise, puisqu'on démarre à cette date-là la construction de gratte-ciel avec un ensemble architectural art déco qui représente un peu un cas d'espèce d'ailleurs, hein, en tant que gratte-ciel à usage d'habitat social et de cité ouvrière. On écoute cette archive et on en parle avec vous juste après.
Ce complexe, qui figure désormais dans l'histoire de l'architecture, n'a pas pris beaucoup de rides. En 1934, il s'agissait d'une œuvre révolutionnaire. S'il est en effet rarissime qu'une banlieue s'attelle à un tel projet d'habitat collectif dense, les techniques de construction employées, et notamment l'ossature métallique venue des États-Unis, étaient utilisées pour la première fois en France. Par ailleurs, les annexes techniques du vide-ordure au chauffage urbain constituaient elles aussi des premières. Commanditée par le maire socialiste de Villeurbanne, Lazare Goujon, l'opération reste exemplaire sous divers aspects. Aujourd'hui, on vient du monde entier visiter les gratte-ciels de Maurice Leroux, auxquels une opération de rénovation bien conduite offre une seconde jeunesse.
Voilà, et là on est en 1984, parlant donc de ces premiers gratte-ciels de 1927, les premiers construits en France, Raphaël Ménard ? Villeurbanne, a priori, oui. Hein.
Oui, c'est une petite colle. Alors, je connais un peu ceux qui sont apparus en Ile-de-France, que ça puisse être à La Défense, avec la tour Nobel, et puis il y en a une tour fameuse aussi à Paris, qui est la tour Montparnasse, qui a été tournée dans les années 70. Il y a celle aussi autour de Villeurbanne de Tony Garnier. Et puis il y en a eu quelques-unes aussi qui sont apparues aussi dans d'autres villes en France. Ouais. Mais alors la tour, ça fait partie aussi de tout ce mouvement de l'aventure de la modernité, et que les architectes étaient en extase de s'approprier une forme spatiale complètement nouvelle et dans des liens un peu nouveaux qu'elle pouvait créer au paysage, à la vue. Il y a eu même un moment, vous savez, Le Corbusier qui avait proposé le plan voisin, le fameux plan voisin.
Épouvantable quand on le regarde aujourd'hui.
qui fait un petit peu peur.
Parce que lui, c'était vraiment faire table rase d'absolument tout.
Exactement.
Dans la capitale en particulier.
Hein, ouais. Et ça Et le plan voisin et aussi parfois le fonctionnalisme de la charte d'Athènes, qu'on disait aussi à séparer aussi les usages dans la ville, en ayant une partie pour se divertir, une partie pour travailler, et puis une partie pour se reposer. Et la nouveauté, ce nouveau paradigme-là, était évidemment rendu possible parce que il y avait aussi cet engin absolument génial qui s'appelait la voiture.
Ouais. Le gratte-ciel aujourd'hui, c'est devenu totalement has-been pour un architecte comme vous ou pas?
Non, pas en tant que réparation, et de se dire comment on fait pour transformer les usages de ces objets qui ont supposé justement beaucoup de matières extraites. On a investi quelque part beaucoup de carbone gris dedans. Mm-hmm. Donc comment fait-on pour pas détruire tout de suite un gratte-ciel et pour le rénover, transformer ses usages pour qu'il devienne peut-être demain autre chose qu'un espace tertiaire.
Donc quand on peut réhabiliter, ok.
Hein? Évidemment.
Mais quand on fait sortir de terre un gratte-ciel comme la Tour Triangle, par exemple, à Paris en ce moment, quand même.
Alors la Tour Triangle à Paris,
elle est gigantesque. Hein?
Alors faut aussi.
Je sais pas d'ailleurs, on peut l'appeler gratte-ciel ou pas?
Oui, alors c'est une tour un peu singulière. Encore une fois, elle a une forme qui lui est très 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 singulière. Et Herzog de Meuron, quand même, ont été quand même très inventifs dans le renouveau morphologique de la tour.
Enfin, sauf que là, on a que du neuf, en fait. Hein.
Alors là, on a que du neuf, mais faut aussi comprendre que ces objets-là sont des grands projets ou des très grands projets dont le mode d'élaboration se met vraiment dans le temps long. Et donc, on va dire que les fonds baptismaux de la pensée de la tour triangle était au début des années 2000. Donc, on peut aussi
C'est pas non plus l'Antiquité, hein, les années 2000. On parlait quand même déjà un petit peu de transition énergétique.
J'essaie de trouver, vous l'aurez compris, ouais. un tout petit peu de je veux dire, une sorte de douceur par rapport à
mais ça fait rire plein de gens quand même, ce genre de projet aujourd'hui.
Oui.
On n'est plus, en tout cas, dans l'idée de respecter les limites planétaires quand on construit un truc gigantesque comme ça, non ?
Je dirais qu'aujourd'hui, si on reposait la question de que ce soit la tour triangle ou d'autres tours,
ça se ferait pas.
Évidemment, ça se ferait, je pense, de façon beaucoup plus compliquée. Oui.
Raphaël Ménard, on va voir comment essayer de sortir de cette dépendance aujourd'hui sans renoncer à l'habitabilité du monde, hein, parce qu'il faut quand même essayer de loger tout le monde. Et puis vous allez répondre aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré, franceinter.fr, les messages vocaux sur l'application Radio France pour imaginer une autre architecture aujourd'hui.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Quand j'ai conçu cette maison il y a 7 ou 8 ans, mon idée de départ était surtout de faire une maison qui vive de la nature et par la nature, et qui prenne un certain recul vis-à-vis de la société. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est être le plus autonome possible. C'est pour ça la forme de la maison, en forme de triangle. J'avais tous mes capteurs solaires orientés à l'optimum, à 10 degrés de plus que la latitude du lieu. Mais maintenant, ce que j'ai voulu faire n'était pas que travailler l'énergie. Pour moi, pour qu'une maison soit intéressante, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'ensemble de sa conception et chaque détail qui vont après la parachever.
Ça, c'était en 1985 sur FR3 Nord-Pas-de-Calais. On entendait l'architecte belge Luc Switen, donc un collègue à vous, Raphaël Ménard, nous parler de la maison bioclimatique à l'époque. Vous publiez, vous, de votre côté, Vers la légèreté, petite histoire énergétique des sociétés humaines. C'est aux éditions Wild Project. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de maison bioclimatique? C'est toujours à l'heure du jour aujourd'hui ou ça a pris un petit coup de vieux quand même?
Ah non, ça n'a pas pris du tout un petit coup de vieux. Même on parlait même de bioclimatisme dans des villes romaines. C'est d'ailleurs un des chapitres du livre qui est consacré à l'architecture énergie et qui revisite un peu cette histoire de personnes aventuriers, par moments bricoleurs, ingénieurs, concepteurs, qui ont déjà, eux, pris conscience que quand même il y a quelque chose qui tourne de pas rond dans un monde très largement gouverné par les énergies fossiles. Hein. Je rappelle aujourd'hui, 80% de la consommation mondiale, c'est des énergies fossiles. Hein. En France, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas forcément folichon non plus, c'est 60%. Donc il y a eu plein de précurseurs, et y compris il y a 100 ans, qui réfléchissaient autour de la maison solaire ou autour de l'habitat passif. Mmh. Il y a eu un point de bascule d'ailleurs très intéressant. Je pointais tout à l'heure l'invention de Otis avec les taquets anti-recul qui permettait l'émergence de l'ascenseur et donc finalement de la forme du gratte-ciel et puis de Downtown Chicago, de Manhattan, de la Défense et consorts. Il y a eu une invention importante au tournant des années 30, qui était l'invention du vitrage isolant, qui a complètement changé le rapport au verre et à la transparence. C'est-à-dire que soudain, ce qui était un matériau qui laissait passer l'énergie solaire, mais qui était en même temps très déperditif, bah, le devenait moins, et donc il devenait vraiment intéressant pour finalement transformer l'architecture comme une petite centrale énergétique. Alors, c'est une centrale énergétique qui ne fait pas de l'électricité, là, c'est simplement récupérer la chaleur des rayons solaires, particulièrement en hiver. Et donc, voilà, je trouve que c'est très touchant d'entendre ces aventuriers, ces pionniers qui, à 50 ans avant, concevaient amoureusement une maison bioclimatique.
Aujourd'hui, on est évidemment à la croisée des chemins avec la nécessité d'aller vers une architecture post-carbone, tant qu'à faire. Est-ce que on est déjà avec la crise climatique aujourd'hui et énergétique dans une autre architecture ? Est-ce qu'on est déjà dans le post-fossile ou pas ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait se dépêcher de le faire, hein. À la fois de travailler vers une descente énergétique et une descente matérielle. Descente énergétique, c'est comment on fait pour que le bâtiment se débranche des énergies fossiles et qu'il embarque aussi des moyens de mobilité qui soient aussi débranchés des énergies fossiles. Mmh. Comment faire en sorte aussi prescrire des matériaux qui ne sont pas des matériaux qui sont extraits, qui sont des stocks non renouvelables, mais qu'au contraire, qu'on apprenne davantage à faire avec le réemploi, avec les fibres végétales, avec la pierre et la terre, et qu'on retrouve aussi des savoirs anciens. Mais l'autre défi aussi, et ce qui ne nous rend pas aussi la partie très facile, c'est qu'il faut qu'on adapte aussi les existants et l'architecture au changement climatique. Et donc c'est une pression supplémentaire pour se dépêcher de bouger. Ouais.
Vous parlez d'une bifurcation quand même, hein ?
Ah bah oui, oui.
C'est ce qu'on est en train de vivre là, très clairement.
Alors c'est une bifurcation qu'on attend tous, mais c'est une bifurcation dont on a du mal à voir la cohérence dans les politiques publiques, et y compris à l'échelle géopolitique. CF, mon petit clin d'œil en intro, oui.
Ouais,
donc on est parti.
À Donald Trump. Hein.
Voilà, on est parti vers la lourdeur là, quand même. Là,
ouais. Ouais. La sobriété, c'est le premier levier pour vous pour cette transition.
Bah, c'est
quand
plus...
vous dites faire avec l'existant, c'est ça dont il s'agit.
C'est le plus léger, en fait. C'est le plus léger d'un point de vue à la fois du point de vue de ce qui coûte matériellement, à savoir rien, et c'est le plus léger aussi temporellement. Vous l'avez cité, Mathieu, il y a une sorte d'urgence. Et donc, les enjeux d'usage, finalement, c'est une mise à jour d'un mode de fonctionnement social et culturel. C'est de l'ordre du software, c'est pas de l'ordre du hardware. Et donc, c'est aussi très facile et très pratique.
Ouais. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de réduire la demande en énergie ? C'est ça l'enjeu, au fond, aussi ?
De réduire la demande en énergie, de réduire aussi la demande en matériel, par une somme de petites transformations. Ouais.
Et vous appelez ça l'architecture énergie, c'est ça ?
Alors, l'architecture énergie, pour reprendre un tout petit peu dans la structuration du livre, dans cette partie, justement, de la descente, donc, un, c'était de raconter les architectes, les urbanistes, les designers, les ingénieurs qui ont cherché cette voie de dire comment on fait pour sortir des énergies fossiles. Et puis un autre chapitre qui est consacré aussi, qui s'appelle l'architecture matière, avec des architectes qui, apparemment, eux, ont vraiment se posé la question sur la question du réemploi, sur la question aussi de comment on fait pour fabriquer tout en bois, comment on fait aussi pour étendre la durée de vie des bâtiments. D'autres aussi qui essaient de concevoir des architecture avec le vivant et de faire en sorte que je vais fabriquer un abri, une infrastructure à partir de la matière qui pousse.
Le bâtiment peut devenir lui aussi même producteur d'énergie ?
Il l'est. D'ailleurs, ça, là-dessus, il y a des incitations réglementaires à ce qu'on a solarisé les toits. C'est vrai que on oppose parfois sur cette nouvelle visibilité de l'énergie, si on veut aller vers un monde qui se débarrasse d'énergie fossile, même si on décroît et même si on diminue notre consommation d'énergie, il faudra refabriquer des systèmes énergétiques de production d'énergie renouvelable. Ça conduit à une nouvelle visibilité. Sur cette nouvelle visibilité, il y a un endroit très facile et qui est déjà artificiel qui s'appelle les toits, par exemple, pour installer des panneaux solaires.
Alors justement, les toitures, ça, c'est un gisement énergétique très intéressant à
exploiter.
Bien sûr,
bien sûr. Les toits, pour... J'ai rappelé tout à l'heure que je comparais les toits, la quantité de toits en France à la quantité de routes, de parkings, etc. Ouais. En rappelant que donc il y a 4%, à peu près 4% de routes, d'autoroutes, de parkings, bref, d'asphalte en France. Il y a un peu plus d'un pour cent de toits en France, si on vraiment, voilà, ouais, on regarde les 550 000 km². Si on prend les scénarios, vous savez, RTE avait sorti un très gros travail, donc RTE, c'est l'opérateur du réseau de transport d'électricité en France, qui, il y a 3-4 ans, avait produit un très gros travail de prospective qui s'appelait Futur énergétique 2050, et donc avait scénarisé plusieurs évolutions possibles à la fois de la demande électrique en France et de la production. Et si on prend même le scénario qui était le plus en faveur du développement du solaire photovoltaïque, ça conduisait à ce qu'au maximum, il représente 0,3% de la surface, la surface de la France. Donc 0,3% par rapport à plus d'un pour cent, vous voyez qu'on a, on en a sous le pied. Et donc clairement,
il y a de quoi faire.
Comment transformer le bâtiment comme un système producteur était aussi un petit défi. Alors un petit défi qui pose des enjeux dans la relation au patrimoine, dans la question patrimoniale, et voilà aussi, vous savez, les débats qu'on peut avoir en France, de dire ah non, il faut surtout pas toucher à ce bâtiment parce que c'est l'histoire.
Raphaël Ménard, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Avec Pierre qui nous dit ceci, réutiliser des matériaux d'occasion n'est pas autorisé par les assureurs dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage. Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler sans assurance ?
Alors ça, je ne sais pas tout à fait, parce que nous, on l'a fait un peu, on essaie de... Moi, en tant que praticien, on essaie de promouvoir un peu tout ce que je raconte là sur l'architecture post-carbone, donc de voir comment un projet après l'autre, c'est une petite bataille de les unes après les autres, et comment on met plus de réemploi. On a réussi à intégrer du réemploi dans des projets et des bâtiments qui sont assurés.
Ouais, alors justement, il y a Florence qui nous dit, quelle piste préconiserait votre invité pour les travaux de sobriété énergétique et d'adaptation au changement climatique sur des bâtiments de grande taille, comme des immeubles de logements sociaux pour lesquels les bailleurs peinent à faire ce qu'il faut?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que les bailleurs avancent plus que les petites copropriétés privées, que les copropriétés privées. Les grands bâtiments, en fait, c'est aussi assez pratique, parce que déjà, ils ont une forme un peu plus compacte, et que ça permet aussi de massifier. Ils sont souvent aussi assez répétitifs. Mmh. Et donc, les travaux de rénovation énergétique, en général, ont une efficacité économique qui est un petit peu plus intéressante que du cas par cas d'individuels ou de petits collectifs. Et donc, dans mes préconisations, alors on avait essayé de les dessiner, parce qu'avant le bouquin, avant Vers les légèretés, il y avait une exposition au pavillon L'Arsenal, qui est un espace d'exposition de l'architecture et de l'urbanisme à Paris. Et donc, avec l'équipe de l'exposition, et en particulier avec Olivier Campagne, on avait dessiné ce que pouvaient être 6 paysages post-carbone. Et donc, il y a un de ces paysages qui était une vue de l'intérieur, dans un logement collectif, et parmi les solutions, donc pour répondre à cette auditrice, le sujet peut aussi passer par l'intérieur et par le mobilier, en renforçant l'isolation si vous avez par exemple des grandes fenêtres et que le bailleur n'a pas prévu tout de suite de les changer par des vitrages plus isolants. Un double rideau bien calfeutré peut déjà être une petite victoire assez rapide. Et j'en donne une à titre personnel, parce que
on vous écoute.
J'habite dans Paris. Il a fait un peu froid ces derniers jours, et donc le fait de simplement réinstaller un dessous de porte, vous savez, c'est un nom particulier là, le sort de petit boudin qu'on met sous sa porte d'entrée,
le petit chien
exactement
qui tient chaud,
donc ce petit chien, qui doit peut-être peser, vous voyez, même pas 500 grammes, je peux vous dire que l'effet sur énergétique et l'impact que ça peut avoir sur la réduction de la consommation est finalement peut être négligeable.
Vous l'avez testé et approuvé. Donc
je l'ai testé et approuvé. Alors je ne dis pas que c'est ça qui fait la révolution de la bifurcation, mais il peut y avoir un certain nombre de petites choses. Et de la même façon sur l'adaptation, des choses qui ont trait à mettre de la peinture blanche sur une baie exposée ou sur un Vélux qu'on a fait chaud, etc., pour renvoyer le soleil, peuvent être aussi des petites victoires faciles.
Thomas demande pourquoi, à votre avis, l'architecture en terre n'a pas pris la place qu'il pourrait lui revenir, en particulier dans les pays méditerranéens.
Dans les pays méditerranéens, même, je dirais presque même ailleurs, hein, parce qu'il y avait aussi l'architecture en terre, en pisé, dans le Dauphiné, dans plein de régions d'Europe, etc. Alors, je ne suis pas expert de la construction, mais c'est très ouvrageux et ça, ça fait appel aussi à des savoir-faire très particuliers et c'est toute cette filière aussi qu'il faut reconstruire.
Merci beaucoup Raphaël Ménard d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Je renvoie vers votre ouvrage, ça s'appelle Vers la légèreté, petite histoire énergétique des sociétés humaines. C'est aux éditions Wild Project. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Terre au Carré en ce début de semaine. Merci à Jean-Philippe Véré qui a préparé ce dossier, Lucie Sarfati qui coordonne la programmation de la Terre au Carré et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.